Les mystères du Palais Royal. Troisième partie. La fille du diable. Chapitre 1. Deux jeunes filles. Voici ce qui se passait dans une pièce du rez-de-chaussée de la demeure de l'usurier Nathan, au moment où notre ancienne connaissance Raoul de la Tremblay venait de quitter cette demeure et se rendait pour tenter la fortune dans la maison de jeu contiguë au logis du Juif. Une description de quelques lignes devient ici nécessaire. Cette description servira en quelque sorte de cadre à la scène dans les détails de laquelle nous allons entrer un peu plus loin. Dans un des chapitres qui précèdent, nous avons conduit nos lecteurs dans la partie de la maison de Nathan où le digne juif se livrait aux opérations lucratives de son commerce fort peu chanceux. Là, comme dans la plupart des logis d'usuriers, nous avons trouvé une nudité absolue ou bien un accouplement bizarre d'objets hétérogènes et fort étonnés de se rencontrer à côté les uns des autres. Assemblage multiple et difforme qui ne peut guère s'expliquer que par ses habitudes hébraïques tenant tout à la fois des mœurs du receleur et de celles du prêteur sur gage. Rien de plus frappant que le contraste que formaient les pièces du rez-de-chaussée avec celles du premier étage. C'est qu'au rez-de-chaussée se trouvait l'appartement de Déborah, la fille de Nathan, est la seule créature humaine qu'il aima autant et même plus que l'or. Il y avait quelque chose comme 40 ou 50 ans que le juif se livrait corps et âme à ces ténébreux trafics dont par tous les pays et dans tous les temps ceux de sa race ont conservé le monopole. Ceci veut dire que Nathan était prodigieusement riche. Or, ces sommes fabuleuses qui chaque jour se fécondaient entre ses mains devenaient pour lui la source d'une double volupté. La première était cette jouissance bizarre, particulière à tous les avares, qui consiste à entasser, à agglomérer, à thésauriser en un mot. La seconde, et celle peut-être qu'il sentait le plus vivement, consistait à environner sa fille unique, Déborah, de toutes les merveilles de ce luxe et de cette opulence qu'il se refusait à lui-même. Et de fait, il avait rassemblé autour d'elle des magnificences plus que royales qui, certes, aurait suffi pour contenter la vanité de la maîtresse d'un roi. La salle basse, résidence habituelle de Déborah, pièce assez vaste et dont les deux fenêtres prenaient jour sur la cour intérieure, était entièrement tendue d'une étoffe orientale, sorte de cachemire d'une finesse extrême. La nuance générale de cette étoffe était gris-perle, mais ce fond disparaissait presque sous de merveilleuses arabesques, figurant des fleurs et des oiseaux. Brodée en soie et en or avec une perfection inouïe et une inimitable richesse de couleurs. Des divans circulaires, en soie pourpre à bandes d'argent, entouraient la salle basse, dont, avec un tapis turc, ils formaient tout le mobilier. Contre les murailles étaient suspendus, dans des cadres de filigrane d'argent, 4 tableaux, 4 chefs-d'œuvre. Ces tableaux, véritables diamants, qui à eux seuls valaient une fortune, était dû aux pinceaux de Raphaël, de Léonard de Vinci, du Pérugin et d'Annibal Carrache. Ils représentaient des sujets bibliques empruntés aux annales du peuple de Dieu. Une pièce d'étoffe, pareille à celle des divans et drapée avec une ampleur pleine de richesses, cachait une porte de communication qui, de la salle basse, conduisait à la chambre à coucher de Déborah. Nous ne décrirons point cette chambre. Contentons-nous de dire qu'elle aurait pu lutter de magnificence avec le boudoir d'une courtisane 10 fois millionnaire, tout en conservant un cachet de virginale chasteté. Au moment où Raoul de la Tremblay allait quitter la maison de Nathan, 2 jeunes filles se trouvaient dans la salle basse. L'une de ces jeunes filles était Déborah. L'autre portait le nom étrange, et que nous avons entendu prononcer déjà une fois, de la fille du diable. Nous avons dit plus haut que Déborah avait 18 ou 20 ans. Nous savons que sa taille était fine, souple et cambrée, et ses traits merveilleusement beaux et réguliers. Nous savons qu'elle était grande et mince, brune de peau et de cheveux, comme une vraie enfant des déserts. Nous savons que son visage, un peu allongé, et ses grands yeux noirs, fendus en amande et d'un éclat incomparable, offraient le type oriental dans sa beauté la plus traditionnelle et la plus pure. Nous savons enfin que telles devaient être les vierges hébraïques quand le peuple de Dieu abandonnait en une seule nuit des palais des pharaons oppresseurs et la terre maudite de l'Égypte. Ses grands cheveux noirs se tordaient sur sa tête en une couronne épaisse et lourde. Elle était vêtue d'une étoffe de laine de couleur foncée et d'une simplicité presque monastique. Il y avait d'ailleurs entre sa beauté et celle de la fille du diable, sa compagne, plus d'un point de ressemblance, dans ce sens que toutes les deux avaient de grands yeux noirs, une peau légèrement brunie et de longs cheveux sombres. Seulement, la fille du diable n'offrait aucun vestige du type arabe qui se retrouvait si splendidement chez Déborah. En outre, la fille du diable était moins grande, plus mignonne dans ses formes gracieusement arrondies, et, qu'on nous passe cette expression, plus câline dans sa physionomie et dans ses allures. Déborah ressemblait à une gazelle presque sauvage encore. Sa compagne pouvait se comparer à une jeune chatte amoureuse et caressante. Elle portait un costume de tout point semblable à celui des petites ouvrières parisiennes, qu'à cette époque on commençait à appeler des grisettes. Des rubans un peu fanés relevaient sur les côtés sa jupe de toile peinte. Son petit pied, chaussé de bas blancs à coins rouges, frétillait dans des souliers à talons. Sa mante grise, à capuchon, retombait négligemment sur ses épaules. Les deux jeunes filles formaient un groupe charmant et bien digne d'attirer l'attention et de fixer les pinceaux d'un peintre de genre. Déborah était à demi étendue sur le large divan circulaire. Sa tête, renversée en arrière, s'appuyait nonchalamment à une pile d'oreillers. La fille du diable était debout en face d'elle. La juive abandonnait sa belle main longue et effilée à la petite main jolie et potelée de sa compagne. « Eh bien, ma chère ?» murmura Déborah. Les lèvres roses de la grisette s'entr'ouvrirent pour répondre. Mais un léger bruit la fit tressaillir et se taire. Les deux jeunes filles écoutèrent. La grisette laissa tomber la main de Déborah. La porte extérieure de la maison venait de se refermer et on entendait Nathan pousser les lourds verrous et faire tourner la clé dans les massives serrures. « Ah ! » fit la juive, « c'est sans doute ce jeune homme que j'ai introduit tout à l'heure auprès de mon père et qui vient de sortir. »« Comment était-il, ce jeune homme ?» demanda curieusement la fille du diable. « En vérité, je ne le sais pas trop. »« Comment cela ? Ne l'avez-vous donc pas vu ?»« Si, mais je ne l'ai pas regardé. »«
Pourquoi ?»«
Parce qu'il me regardait trop, lui. »«
Ah, il vous regardait, ma chère. »
Sans cesse, et ses yeux brillaient comme les diamants de ses colliers et de ses bracelets qui sont entassés dans ma cassette de bois de cèdre, et que je vous montrais il n'y a qu'un instant.
« Je comprends, » reprit la grisette en riant, « je comprends qu'il ne vous a point trop été possible de lever les yeux sous la mousqueterie des œillades de ce cavalier. Mais vous savez que nous autres, fidèles, nous voyons sans regarder. »
« C'est un peu vrai. »«
C'est vrai beaucoup. »
Or, vous avez assez vu, ma chère, pour vous souvenir et pour me répondre,
si toutefois vous le voulez.
Je ne demande pas mieux. Questionnez, belle curieuse.
Voyons, était-il grand?
Je crois que oui.
Donc, il l'était.
Bien pris dans sa taille?
Sans doute.
Blond ou brun?
Les cheveux d'un châtain brillant et soyeux.
Les yeux bleus ou noirs?
Ah, quant à cela, il m'est impossible de vous répondre. Je n'ai vu que les étincelles que lançaient ses prunelles.
Passons. Quelle toilette avait ce gentilhomme?
Gentilhomme, dites-vous?
Croyez-vous qu'il le soit?
C'est vous que j'interrogerai à ce sujet. Il me semble que sa tournure a dû vous donner la clé de cette énigme.
Oh, sa tournure était des plus nobles, et ses façons de parler sentaient le grand seigneur.
Donc il l'est. Vous voyez bien que vous en savez plus long que vous ne le croyez vous-même.
Déborah inclina la tête en signe d'adhésion. Puis elle reprit.
Quant à sa toilette, elle était simple et m'a semblé de bon goût. Mais je ne puis vous la détailler.
Que pensez-vous qu'ils viennent faire chez votre père?
Ah, mon Dieu, ceux qui viennent faire les trois quarts des jeunes seigneurs. Lui emprunter de l'argent.
Donc, il est riche?
Qui? Ce jeune homme?
Certainement.
Sur quoi fondez-vous cette supposition?
Vous ne connaissez donc pas un proverbe très vieux et très sage?
Lequel? celui-ci. On ne prête qu'aux riches. D'ailleurs, je ne crois pas que votre excellent père soit homme à donner son argent sans de bonnes et solides garanties. »
Déborah fit un léger mouvement d'épaule qui signifiait « Dieu le sait !»
Puis elle ajouta à voix haute « Mais il n'est pas certain que mon père ait prêté de l'argent à ce jeune homme. Sur 10 emprunteurs qui se présentent, il en est conduit au moins 5 ou 6. »
« Eh bien, questionnez-le à ce sujet, il vous répondra. »
« Oh, je ne tiens guère à le savoir. Et j'ignore pourquoi, depuis 5 minutes, nous ne nous occupons que de cet inconnu. »
« C'est ma foi vrai, » répondit la fille du diable en souriant. « Que nous importe ce gentilhomme que moi je n'ai jamais vu et que vous ne reverrez peut-être jamais. Réparons le temps perdu et parlons d'autre chose. »
Déborah souleva sa main et l'attendit de nouveau à sa compagne en lui disant « Vous étiez en train tout à l'heure d'examiner les lignes de ma main pour en tirer mon horoscope. Vous voulez que je continue ?
Je vous en prie.
Eh bien, soit. » Et la fille du diable reprit entre les siennes la main d'une incomparable élégance que lui présentait Déborah et examina avec une attention presque solennelle les lignes imperceptibles qui se croisaient sur la paume unie et nacrée de cette main.
Chapitre 2. La prophétie. Pendant une demi-minute à peu près, la jeune fille sembla s'absorber dans sa contemplation profonde. Une sorte d'incertitude se lisait sur son front blanc et uni. Tantôt, un pli d'une expression sombre et soucieuse se creusait entre ses sourcils fins et bien arqués, tantôt, au contraire, ses lèvres souriaient. On eût dit que des sentiments contradictoires se combattaient dans son esprit. Tout ceci, nous le répétons, ne dura guère qu'une demi-minute. Déborah, cependant, trouva sans doute que ce silence était trop long, car elle dit « Eh bien, ma chère, voyons, j'attends. » La fille du diable leva ses beaux yeux sur sa compagne et lui répondit d'une voix sérieuse « J'aimerais mieux ne pas parler. »
« Pourquoi donc ?»«
Parce que je lis dans votre main des choses étranges, incohérentes, qui se contredisent, qui m'étonnent, et dont il m'est impossible de me rendre compte à moi-même. »
« N'importe, dites toujours.
Je vous en prie, n'insistez pas.
Vous ne devinez donc point, ma chère, que vos refus ne font qu'aiguillonner ma curiosité ?»«
Je cède alors, mais à une condition. »«
Laquelle ?»«
Celle-ci. Vous ne croirez pas un seul mot de toutes les sottises que je vais vous dire. »«
Des sottises ?» répéta la juive avec étonnement.
« Êtes-vous donc incrédule à ce point ?»
Et n'ajoutez-vous aucune fois à la science de votre mère ?
Non, répliqua la jolie chiromancienne. Non, je ne suis point incrédule, et j'accorde une créance entière à ce que vous appelez la science de ma mère.
Eh bien,
ce n'est pas de la science que je doute.
De quoi donc ?
De moi-même.
À quel propos ?
À ce propos que je suis ignorante et inexpérimentée, novice élève. Épelant à grand-peine quelques syllabes de cet alphabet mystérieux, dans lequel ma mère lit aussi couramment que dans un livre ouvert. Enfin, je crains de me tromper et de vous tromper en même temps.
Est-ce tout ?
Oui.
Eh bien, quand nous nous tromperions un peu l'une et l'autre au sujet de notre avenir, où serait le mal ?
Il ne serait pas grand, sans doute, si mes prédictions ne risquaient de produire sur vous une impression fatale.
« Ah ça, vous voyez donc dans mon horoscope des choses bien terribles ?»
La fille du diable hésita. Déborah recommença sa question. La jeune fille se décida soudain et répondit.
« Oui, je vois des choses bien terribles et qui seraient horriblement sinistres, si elles n'étaient pas si folles. »
La juive frappa vivement des deux mains l'une dans l'autre et ses yeux étincelèrent de cet éclat presque phosphorescent, dont les premières étincelles durent briller dans les yeux de notre mère Ève, quand le serpent tentateur lui proposa de mordre au fruit de l'arbre de la science.
« Ah ! » s'écria-t-elle. « Parlez, ma chère, parlez vite ! Vous voyez que je meurs d'impatience. Je vous en supplie, ne me faites pas plus longtemps languir. Avez-vous encore besoin de ma main ?»«
Non, j'en ai suffisamment étudié les lignes et j'y ai vu tout ce que je voulais. Ou plutôt,
tout ce que je pouvais y lire. « Alors, qu'attendez-vous pour me satisfaire ?»«
J'attends que vous me posiez des questions, auxquelles je répondrai de mon mieux. »«
Je commence. »«
Et d'abord, je vous interrogerai au sujet de ce qui nous intéresse le plus, nous autres jeunes filles. »«
L'amour, n'est-ce pas ?»«
Oui. Que voulez-vous savoir ?»«
Je veux savoir si j'aimerais. » »«
Oui, vous aimerez. » »«
Beaucoup ?» De toute votre âme.
Et serais-je aimée?
Sans doute. Autant que j'aimerais moi-même?
Je le crois.
Déborah ne put s'empêcher de sourire.
Jusqu'à présent, ma chère, dit-elle, vos prédictions n'ont rien de bien sinistre.
Eh bien, répondit vivement la grisette, restons-en là et ne me questionnez pas davantage.
Par exemple, répliqua la juive,
ce serait m'arrêter en trop beau chemin.
Non, 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 je continue.
La fille du diable baissa la tête d'un air résigné.
Déborah reprit. Épouserai-je celui que j'aimerais et qui m'aimera?
La jeune prophétesse hésita de nouveau pendant une seconde, puis elle prit son parti et répondit nettement.
Non.
La juive tressaillit.
Vous croyez? Demanda-t-elle ensuite.
J'en suis sûre.
Sûre?
Oui.
À moins cependant, bien entendu, que mes observations ne me trompent et que mes calculs ne soient erronés. Je vous ai prévenu tout à l'heure que j'éplais à peine la langue énigmatique du livre de l'avenir.
Continuez, fit Déborah.
Que voulez-vous que je vous dise encore?
Qu'arrivera-t-il de cet amour dont vous me parlez?
Les lignes de votre main ne me répondent à cet égard que d'une façon vague et inquiétante.
Comment?
Je vois que vous donnerez votre cœur à un homme étrange, à un être mystérieux et indéfinissable. Je vois une rivalité terrible, une honteuse perfidie, une inévitable trahison. Et enfin,
la devinesse s'arrêta.
Enfin ? Répéta la juive.
Le plus sinistre et le plus tragique de tous les dénouements, répondit ou plutôt balbutia la jeune fille.
Quel est ce dénouement ?
Une mort violente et prématurée.
Une mort violente?
Une mort prématurée? S'écria Déborah avec un commencement d'effroi.
S'agirait-il donc d'un assassinat?
Oui.
Et c'est moi qui dois en être victime?
Oui.
Et quel sera le meurtrier?
Une obscurité impénétrable cache pour moi la main criminelle. Je vois l'assassinat, mais je ne vois pas l'assassin.
Depuis un instant, Déborah était devenue très pâle. En ce moment, sa tête charmante, qui s'était détachée des coussins du divan, se renversa complètement en arrière et roula parmi les masses épaisses et soyeuses de ses magnifiques cheveux dénoués, qui l'inondèrent de leurs nattes d'un noir bleuâtre. La juive commençait à perdre connaissance.
« Mon Dieu, Déborah, qu'avez-vous ? »
s'écria la fille du diable épouvantée. Déborah ne put répondre que par un mouvement si faible qu'il était presque indistinct. Elle s'évanouissait complètement.
Chapitre 3. 200 000 livres et un double louis.
La jeune fille se jeta à genoux à côté de la juive. Elle lui souleva la tête, elle l'entoura de ses bras, elle l'appuya sur sa poitrine et détacha avec promptitude les agrafes qui serraient le corsage de la robe de Déborah.
Soulagée presque aussitôt par ses soins empressés, la juive ouvrit les yeux et les fixa sur sa compagne avec une expression affectueuse.
En même temps, ses lèvres murmurèrent.
« Ce n'est rien, ce n'est rien. »
Quelques secondes se passèrent encore, puis la force revint tout à fait à Déborah. Les vives couleurs de la santé reparurent sur ses joues, et elle put quitter le divan et se tenir droite.
« Mais enfin, qu'aviez-vous donc ?» lui demanda sa compagne avec un tendre intérêt.
« Je ne sais, » répondit la juive, « mais ces sombres images, ces lugubres prophéties m'ont causé une impression funeste. Il m'a semblé que mon cœur se glaçait. Il m'a semblé que la main meurtrière dont vous me parliez tout à l'heure s'apesantissait déjà sur moi. J'ai tremblé, j'ai eu peur.
C'était sans doute une folie absurde et ridicule, mais je vous en prie, ma chère, ne vous moquez pas trop de moi. s'écria la fille du diable. « vous me désolez, Déborah. »«
Moi ? Et pourquoi donc ? Je vois que je vous ai fait du mal. Je me sens coupable et je ne me le pardonnerai jamais. »
« Enfant, si vous avez parlé, n'est-ce pas malgré vous ?»«
C'est vrai.
N'avez-vous pas cédé à mes sollicitations pressantes ?
Et d'ailleurs, pouviez-vous supposer que je serais absurde jusqu'à m'émouvoir de ce que vous-même appelez des folies ?»«
Vous avez raison. Mais malgré tout cela, j'aurais dû me taire. J'aurais dû ne point vous céder. J'espère au moins, chère Déborah, que cette triste impression est passée, bien passée, et que vous ne croyez plus un seul mot de mes sottes prophéties.
Oh, soyez tranquille à cet égard, répondit la juive en souriant. J'aime mieux douter de votre science que de douter de l'amour et de l'avenir.
Et puis, à 19 ans à peine, savoir qu'on mourra assassiné, ce serait vraiment trop désolant, ma chère.
Et vous me pardonnez ?
Moi ? Que puis-je avoir à vous pardonner ?
L'instant de chagrin, de souffrance que je vous ai causé.
Folle que vous êtes, non seulement je ne vous en veux pas, mais encore, je ne m'en souviens plus.
Bien vrai ?
Aussi vrai que je vous ouvre mes bras. Et Déborah étendit en effet vers sa compagne ses beaux bras blancs et gracieux. La jeune fille s'y précipita. Toutes deux se confondirent en une étreinte chaleureuse et caressante. Jamais l'imagination d'un poète amoureux de la forme n'a pu rêver un groupe plus séduisant que celui qu'offraient en ce moment Déborah et la fille du diable. La juive était à moitié dévêtue. Le corsage entr'ouvert de sa robe laissait entrevoir les fermes et divins contours de sa gorge de vierge. Les lourdes tresses de sa chevelure royale tombaient comme un manteau de velours noir sur ses épaules découvertes. La fille du diable, un peu moins grande que son amie, se haussait sur la pointe de ses petits pieds pour atteindre au front de Déborah, sur lequel elle appuyait ses lèvres rouges et épanouies, comme une fleur de corail. Ce baiser, caresse chaste et charmante d'une jeune fille à sa compagne, était donné avec un abandon si rempli de grâce ardente et sensuelle qu'il ressemblait à une caresse voluptueuse. À cette étreinte succéda une causerie joyeuse, entrecoupée de frais éclats de rire. À coup sûr, aucun vestige de ce qui venait de se passer n'était resté dans l'esprit de Déborah. Quant à la grisette, elle aussi ne semblait pas se souvenir. Quittons pour un instant les deux jeunes filles, nous les retrouverons bientôt. Nos lecteurs se souviennent peut-être que nous les avons introduits à la suite de Raoul de la Tremblay dans la maison de jeu de la rue Saint-Honoré. Ils n'ont pas oublié sans doute que cette nuit-là, la fortune lui gardait ses faveurs, qu'elle prodigue parfois à ceux qui viennent au jeu, vierges encore des mortelles étreintes du jeu. Ils savent qu'en quelques heures, sans une seule intermittence et avec une chance si prodigieuse et si persistante qu'elle tenait presque du prodige, Raoul gagna 200 000 livres. Au milieu de cette incroyable fortune, au milieu des éblouissements de cette opulence, qui succédait sans transition à la froide misère, Monsieur de la Tremblay conserva un sang-froid qui n'était pas moins étrange que son gain lui-même et qui révélait, à coup sûr, une âme bien fortement trempée. À grand-peine, il entassa dans ses poches tout l'or et les billets de caisse représentant les sommes qu'il avait gagnées. Il alla à une fenêtre qu'il ouvrit. Il regarda le ciel, dans lequel étincelait encore quelques blanches constellations que les premières clartés de l'aurore naissante allaient bientôt faire pâlir. « Oh, mon étoile !» murmura-t-il alors avec un réel et profond enthousiasme et en se désignant à lui-même un coin du ciel d'où jaillissait un rayon plus vif. « Tu es là, je te reconnais. » Ensuite, il promena un regard orgueilleux et dominateur sur ceux qui l'entouraient, pâles fantômes dévorés de la fièvre du jeu, et qui tous répondaient par une envieuse adulation à sa pitié moqueuse. « Maintenant je suis riche !» Puis de ses lèvres tombèrent ces mots. « Maintenant je suis riche ! À moi la vie ! À moi l'avenir !» Et Raoul, après avoir descendu fièrement le large escalier de la maison de jeu, s'installa dans une chaise à porteurs et se fit conduire à l'hôtel de la Toison d'Or, où il se promettait bien de mettre les pieds en ce moment pour la dernière fois. Jacques veillait dans la chambre de Raoul. Le brave garçon,
prodigieusement inquiet de l'absence prolongée de son maître, absence dont il lui était complètement impossible de deviner le motif, ne s'était pas couché et l'attendait.
« Mon Dieu, monsieur le chevalier !» lui dit-il. « Si vous saviez combien j'avais peur qu'il ne vous fût arrivé quelque chose !»«
Tu ne te trompais pas, mon enfant !» répondit Raoul. « Il m'est en effet arrivé quelque chose !»«
Rien de malheureux, j'espère !»«
Tu vas en juger !» Et Raoul, plongeant à la fois ses deux mains dans les poches de ses vêtements, les retira pleines de pièces d'or qu'il fit ruisseler sur le tapis fané de la table de sa chambre. Jacques regardait cette avalanche métallique et n'en pouvait croire ses yeux. Raoul, jouissant de la surprise de son valet, plongeait de nouveau ses mains dans ses poches, comme dans un océan sans fond, et les retirait toujours pleines.
« Mon Dieu !» s'écria Jacques à la fin. « Mon Dieu, que d'or ! Que d'or !
C'est mieux que de l'or, mon enfant !» répondit gravement Raoul. « C'est la première pierre d'un édifice qui sera grandiose. C'est la puissance, c'est la vengeance. J'ai été chassé, j'ai été insulté par des hommes qui me volaient ma fortune et mon nom. À ces hommes, je ferai crier grâce et demander merci. Toi aussi, mon pauvre enfant, tu as été chassé de la maison où ton père était mort. Si tu le veux, une fois ma vengeance accomplie, ce sera le tour de la tienne. »
« Monsieur le chevalier, » répondit Jacques humblement, « je ne souhaite me venger de personne. »«
As-tu donc le cœur assez lâche pour oublier le mal qu'on t'a fait ?»«
Oh, ce n'est pas cela, monsieur le chevalier. »«
Qu'est-ce donc ? Ceux qui croyaient me faire du mal n'ont agi en réalité que pour mon bien. »«
Mais de quelle façon ? Si je n'avais pas été sans asile et sans pain, monsieur le chevalier ne m'aurait point trouvé sur le bord de la route ?»
« Sans doute. Monsieur le chevalier ne se serait point senti pris de pitié pour moi. »«
C'est juste.
Monsieur le chevalier ne m'aurait point emmené à Paris avec lui et attaché à sa personne. »«
C'est logique.
Donc, c'est mon malheur qui a fait mon bonheur. Car tant que monsieur le chevalier me permettra de le servir et de l'accompagner, il n'y aura pas de position en ce monde qui me semble pouvoir se comparer à la mienne. »
Raoul se sentit ému de cet attachement si vrai, si profondément senti et si naïvement exprimé. Malgré les préjugés aristocratiques qu'il devait, sinon à sa naissance, du moins à son éducation, il tendit sa main au fidèle Jacques. Et ce dernier, malgré l'excès de sa joie, hésita cependant avant d'oser la serrer dans les siennes.
« Oh, mon pauvre enfant !» lui dit-il ensuite. « Tu es bon, toi, meilleur que moi. » Puis, après un silence, il ajouta « Je sais bien que ce n'est pas avec de l'or que l'on peut payer un dévouement comme le tien. Mais enfin, puisque me voici devenu riche, il faut bien que tu le deviennes aussi. Tout ce qui se trouve sur cette table est à toi aussi bien qu'à moi. Prends ce que tu voudras. »
Jacques s'approcha de la table. Il regarda longuement le monceau de pièces d'or et de billets de caisse entassés sous ses yeux. Puis, il avança la main, prit un double louis, non sans une certaine hésitation, et le coula dans la poche de côté de sa veste en se demandant à lui-même «
Que vais-je faire de tant d'argent ?